Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Hamon avec qui nous allons parler de biologie, du monde du vivant et voir comment s'en inspirer dans la prise de décision. Bonjour Olivier et bienvenue.
Bonjour.
Alors là, on s'attaque à un champ assez vaste pour poser déjà les bases. Quel est le constat duquel on part pour pouvoir poser un peu les bases de ta réflexion?
Les bases de ma réflexion, elles viennent de la crise environnementale, grosso modo. Dire qu'en fait, on fait face à un monde qui fait face à plusieurs crises, de la biodiversité, des pollutions diverses, bon, etc., du climat, bien sûr. Et du coup, souvent, une réponse qui est mise en avant, c'est se réconcilier avec le vivant. Et du coup, bah voilà, c'est un petit peu la base de ma réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire, se réconcilier avec le vivant?
Et quel effet a eu pour ton travail le Covid? Tu travailles sur ces sujets-là bien avant la crise Covid?
Oui, c'était bien avant. Et en fait, c'est venu progressivement. Moi, c'est une série de déclics en général quand on s'intéresse à ce sujet-là. Mais le Covid, c'est arrivé un petit peu après. En fait, j'avais déjà réfléchi à ces questions-là avant. Et le Covid a plutôt confirmé, j'ai envie de dire, certaines des faiblesses de notre système et a plutôt révélé les fragilités de notre système socio-économique. En fait, ça a mis à nu toutes ces fragilités-là, quoi. Et du coup, ça a plutôt confirmé mes impressions, on va dire.
D'accord. Et ça t'a donné un peu de temps aussi pour formaliser des idées, peut-être ?
Oui, c'est vrai. J'ai eu un petit peu plus de temps. Bon, après, c'est au début surtout. Après, ça s'est redensifié, mais j'ai eu un peu de temps, oui.
Donc le constat duquel on part, c'est que le monde actuel, il n'est pas soutenable.
C'est clair. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais disons la majorité, la plupart des scientifiques, mais même au-delà des scientifiques, le disent et le redisent. C'est pas soutenable.
Et pour quelle raison alors? Toi, tu t'es intéressé aux causes un peu de...
Oui. Alors les causes sont assez. En fait, c'est assez simple. Hein. C'est même de façon assez intuitive. On peut le voir. C'est qu'en fait, on arrive aux limites planétaires. Quoi. C'est qu'en fait, on a à peu près notre empreinte sur la Terre est vraiment globale. Il y a plus un mètre carré de la Terre qui ne porte pas la trace de l'humain. Alors parfois, c'est très subtil. Hein. Ça peut être des traces des essais atomiques, des 2000 essais atomiques aériens qu'on a fait. Bon, ça a couvert toute la surface de la Terre, hein, directement. Après, il y a des endroits où l'empreinte est beaucoup plus forte. On peut penser à l'agriculture et aux pollutions nitrates, par exemple. Donc, on a une empreinte globale. Hein, et en fait, on arrive au bout de notre Terre. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement... On a fusionné avec la planète entière. Donc, on n'a plus tellement de marge de manœuvre à part aller sur une autre planète. Mais voilà, il va falloir faire avec notre surface terrestre. Quoi. Donc ça, c'est une limite physique.
Il a fallu combien de temps à l'homme pour faire ça, alors ?
Alors la surprise, en fait, ça c'est une des grandes surprises des gens qui travaillent sur ces questions, donc de ce qu'on appelle l'anthropocène, l'époque de l'âge de l'humain, quoi. C'est que c'est très récent, en fait. On a souvent pensé que bon, voilà, les humains ont attaqué la mégafaune, ont fait l'effondrement de biodiversité depuis très longtemps, hein, 40 000 ans, voilà, les grands animaux disparus, tout ça, ça fait longtemps. Mais en fait, ça s'est beaucoup accéléré depuis 1950. Donc, en fait, ça fait 70 ans. C'est très, très récent, en fait. C'est que l'humain a fait progressivement, on peut penser à la Renaissance, voilà, la découverte de l'Amérique, etc. On peut penser à quelque chose de très progressif. En fait, c'est pas du tout ça. Ça a été très, très lent jusqu'en 1950. Et à partir de 1950, c'est très rapide.
Et là, c'est linéaire, l'accélération, ou en plus, on a un effet de courbe qui s'accélère encore plus?
Oui, alors c'est difficile à dire sur les dernières années, puis en plus avec le Covid, là, il y a des perturbations vraiment sur les toutes dernières années. Mais en fait, il y a vraiment eu une bifurcation. C'était qu'en fait, c'était quasiment plat avant 1950. Et donc, c'était une croissance voilà, à peu près algorithmique. Quoi. Et après, c'est une croissance géométrique. Donc, on passe vraiment à un autre rythme. Donc, c'est tellement court. Hein. En fait, je pense que ce serait difficile de dire si ça s'accélère encore plus sur les dernières années ou ça décélère. On n'a pas assez de recul.
OK, on n'a pas assez de recul là-dessus. Et les raisons, alors, depuis 1950, qu'est-ce qui se passe en 1950 qui fait que l'homme a décidé d'accélérer son empreinte sur l'espace qu'il occupe?
Alors c'est un petit peu, bon après c'est toujours des effets de palier, c'est-à-dire qu'on on est certainement passé au-dessus d'un certain palier et après c'est parti un peu en exponentiel à partir de là, mais il y a quand même une raison profonde qui est la guerre en fait, ou enfin les guerres quoi, mais qui sont une sorte de groupe de guerre du début du siècle, où en fait on a augmenté les performances de façon très très forte. Et on peut penser au taylorisme, au rendement des moteurs, même les porte-conteneurs et tout ça. Tout ça, c'est les nitrates aussi, hein, c'est une invention de la Première Guerre mondiale, finalement. Donc, finalement, toutes ces inventions pendant la guerre, on essaie d'être très, très, très performants. et parce qu'il y a un ennemi et donc il faut aller très vite, il faut vraiment aller dans les gains de performance. Et quand la paix arrive, on ne revient pas en arrière, en fait, on garde ce niveau de performance. Et donc, en fait, on est aujourd'hui, là, en 2021, en fait, on est toujours sur un mode économique de guerre, en fait. C'est que fondamentalement, notre économie est une économie de guerre, en fait, donc hyper performante.
Parce qu'avant la guerre, on était moins dans la recherche de la performance, c'est ça que tu nous dis ?
Alors, on était aussi dans la recherche de la performance, mais la guerre stimule les gains d'efficacité, d'efficience. Il faut penser que la France, au 19e siècle, c'était une France essentiellement rurale, hein, en fait. Hein, il n'y avait pas tellement d'industrie. L'Angleterre avait déjà un peu basculé, même beaucoup basculé vers l'industrie. En France, on était toujours très très ruraux, plutôt dans l'agriculture, c'était l'agriculture dominante, hein, en fait. Et la guerre a tout changé, en fait. Non seulement on a fait des industries, mais en plus on a fait des industries tayloristes, donc hyper efficientes.
Et ça, en quoi c'est un facteur aggravant alors ?
Bah, c'est un facteur aggravant parce que quand on est très performant, souvent en fait c'est très performant au niveau social, et on considère que, et ça c'est tout le problème de l'économie notamment du 20e siècle, c'est qu'on considère que la nature ou les écosystèmes sont des ressources à exploiter, quoi. Enfin, je fais de façon un peu caricaturale, hein, c'est pas toujours le cas évidemment, mais on a plutôt tendance à dire qu'on va puiser, qu'on va faire de la valeur grâce à l'infini des matériaux, l'infini matériel, quoi, qui nous entoure. Et donc c'est ça la réalisation d'aujourd'hui, c'est qu'en fait aujourd'hui, on sait que cet infini matériel est fini. Donc, on ne peut plus être dans ce dogme de la performance. En fait, c'est en fait, mathématiquement, physiquement impossible.
Et alors ça a l'air d'être admis, et pourtant, on ne voit pas les comportements changer.
Alors, en fait, y a des comportements qui changent, et c'est un petit peu le thème de ce que je mets un petit peu en avant dans mon expertise, c'est que on change les comportements, donc c'est tout la sphère du développement durable, par exemple, qui dit, ben voilà, il va falloir faire de la performance différemment, en essayant de respecter, d'inclure plutôt un peu plus les non-humains dans les décisions. Mais souvent, en fait, ces méthodes ou ces solutions du développement durable sont toujours basées sur des gains de performance. On essaye de rendre les bâtiments plus efficients, et en fait, on reste toujours dans ce dogme de la performance, sans changer fondamentalement de paradigme, quoi. En fait, on reste toujours un petit peu là-dedans.
Ok, on a contexte qui est compliqué, recherche de performance qui est une des causes, et tu t'es intéressé au monde des vivants pour essayer de trouver des solutions inspirantes, ou en tout cas, trouver d'autres façons de se développer. Qu'est-ce que tu as observé d'intéressant alors ?
Alors, ce qui est très intéressant dans le vivant, c'est que le vivant, en fait, habite la Terre depuis des millions d'années et ne mise pas sur la performance. C'est qu'on a on a souvent une vision un petit peu fantasmée du vivant, qui est très harmonieux, tout ça, et souvent on met en avant l'aspect performant du vivant. On parle de machines métaboliques, de lignes de défense pour l'immunité. Enfin, on a vraiment un vocabulaire qui met en avant le côté hyper performant du vivant.
Okay.
Alors que c'est pas vrai, en fait. C'est quand on étudie vraiment le vivant, en fait, le vivant ne met pas la performance comme objectif, entre guillemets. C'est la robustesse que le vivant met en avant, en fait. Le vivant a comme valeur cardinale la robustesse. Alors, peut-être que je définisse la robustesse pour être parfaitement clair. Donc, la robustesse, c'est de maintenir le système stable malgré les fluctuations de l'environnement. Et donc, c'est ce que fait le vivant depuis des millions d'années, en fait. C'est dans l'homéostasie, par exemple. Le mot d'homéostasie va bien dans ces thèmes-là, quoi, de robustesse. Quoi.
Et est-ce que c'était un mode, la recherche de robustesse, c'était plutôt le mode de fonctionnement de l'humain avant les années 50 ? Ou ça n'a jamais été le cas pour nous ?
Oui, alors ça, c'est une question difficile, parce que je pense que l'humain a toujours voulu performer, et ça, c'est quelque chose, enfin, on le voit bien, hein, on peut aller des pyramides mayas, où il y a toujours une sorte de volonté de s'améliorer, ça, c'est vraiment, même physiologiquement, on a des hormones qui nous poussent à performer, mais ce qui est très différent, et le vivant aussi performe, hein, ça arrive, hein, mais ce qui est très important, c'est que le vivant, quand il performe, c'est toujours transitoire. C'est toujours pour une petite période. Typiquement pour nous, notre corps est très performant quand on a de la fièvre. Mmh. C'est que nos enzymes, nos protéines, elles sont à leur optimum d'activité pendant la fièvre. Mais on voit bien que ça ne peut pas durer, en fait. Les enzymes, les protéines, tout ça, elles se fatiguent. En fait, à 40 degrés, elles commencent à se dénaturer et à devenir plus fonctionnelles. Donc, c'est très performant pendant un petit moment. Et c'est ça qui permet de lutter contre un pathogène, mais pas éternellement, quoi. Et donc, probablement que les humains on cherchait cette performance, mais plutôt de façon transitoire. Ce qui a vraiment changé après 1950, comme je disais, quoi, c'est on est parvenu en arrière, en fait. On est resté sur ce mode très performant.
Donc là, c'est un concept que j'ai découvert en t'écoutant, en lisant, de sous-optimalité.
Oui, exactement.
Tu peux nous définir la sous-optimalité, alors ?
Alors, la sous-optimalité, en fait, c'est une façon d'être robuste. Et l'idée, en fait, c'est de construire de la robustesse, non pas en plus de la performance. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être très performant et très robuste, c'est d'être robuste, enfin, de construire de la robustesse contre la performance. Et ça, c'est pas complètement intuitif. Parce que comment on peut être robuste en étant moins performant ? Et donc, quand on regarde les êtres vivants, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent leur robustesse sur un tas de paramètres qui ne sont pas très positifs pour nous, mais qui sont hétérogénéité, lenteur, délai, incohérence. Et c'est ça qui fait la robustesse du vivant, en fait.
Tu peux nous donner des exemples ?
Absolument. Donc, un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple des cellules souches, par exemple. Donc, ça, c'est les cellules qui régénèrent notre corps en permanence. Donc, les cellules du sang, par exemple, elles sont régénérées en permanence parce qu'il y a des cellules souches. Et ces cellules souches, en fait, c'est des cellules qui, voilà, qui n'arrêtent pas de faire des nouvelles cellules de différents types. Hein. Elles font faire toutes les différents types de cellules du sang. Donc, c'est vraiment fondamental pour le vivant. Et donc, pendant très longtemps, on a pensé que c'était des cellules hyper performantes. En fait, parce qu'elles étaient capables de faire quelque chose de magique, quoi, de carrément de régénérer n'importe quel tissu. Et en fait, plus on a cherché à savoir ce qui était performant, et plus on s'est rendu compte en fait que c'était des cellules qui n'étaient pas très performantes. Et en fait, c'est des cellules qui sont très lentes. C'est des cellules qui n'arrêtent pas d'hésiter, en fait, qui se commencent à se différencier en muscles, et puis après, c'est trop tard, donc on leur envoie un signal contradictoire, donc du coup, elles commencent à se différencier en os, et puis après, en neurones. Donc en fait, elles n'arrêtent pas d'hésiter, et elles hésitent tout le temps parce qu'elles sont trop lentes. Et en fait, cette lenteur permet aux cellules d'être compétentes pour se différencier en n'importe quoi. Et ça, en fait, c'est de la robustesse. C'est qu'en fait, de la lenteur émerge de la compétence, et de la compétence, en fait, émerge une capacité à s'adapter à n'importe quelle situation, quoi. Donc, c'est, en fait, les cellules souches, par exemple, elles sont là aussi pour régénérer une blessure, par exemple. Si on se coupe un morceau de bras et qu'il faut régénérer du muscle, ça va être des cellules souches qui vont faire le travail, quoi. Et donc là, elles seront capables de s'adapter à ça aussi, quoi.
Et donc, toi, dans ton idée, il y aurait des organisations entières qui seraient dans un modèle de cellules souches, ou c'est au sein d'une organisation, on a des éléments qui sont, qui vont avoir plutôt ces caractéristiques-là, de lenteur, d'incertitude, de capacité à changer de direction, et c'est ça qui va finalement amener, nourrir l'ensemble de l'organisation ou après de l'écosystème.
Alors, ça peut être à plusieurs échelles, en effet, mais ça peut être à l'échelle entière, hein, enfin à l'échelle d'une organisation entière. Donc, je peux peut-être prendre peut-être un exemple, par exemple, un ou deux, quoi, mais il y a par exemple, l'habitat participatif. Ouais, ça, c'est un exemple que j'aime bien aussi. Donc, c'est un habitat où les habitants choisissent, ils créent, ils conçoivent, ils gèrent leur habitat. Donc, c'est assez important comme investissement. Donc, il y a des espaces privatifs, hein, dans l'habitat participatif, mais il y a aussi des parties communes, un étage pour les enfants, une chambre d'amis partagée. Enfin, bon, voilà, il y a un potager, par exemple, partagé, des choses comme ça. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est pas une solution clé en main. C'est que par rapport à un habitat où on signe chez le notaire et puis on a son habitat, ça c'est très performant, on va très très vite à la solution, on cherche un habitat qui nous convient et on habite. Mais c'est pas très robuste, parce que par exemple si d'un seul coup la famille s'agrandit, s'il y a un souci avec les voisins, tout ça, ça peut poser problème. Alors qu'avec un habitat participatif, c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver, c'est très difficile en fait, ça demande beaucoup de discussions, beaucoup plus de temps, donc il y a la lenteur, il y a des hétérogénéités, il y a beaucoup d'incohérences, tout ça, mais ça fait des habitats beaucoup plus robustes. Et alors d'ailleurs, la période du Covid l'a très bien démontré, c'est que les habitats participatifs ont très très bien, enfin les habitants qui sont dans les habitats participatifs ont très bien passé la période Covid en fait. C'est robuste aussi du point de vue psychologique, économique, financier. Donc ça, c'est un exemple où le système, en fait, a utilisé certaines des clés de la sous-optimalité biologique sans forcément faire de... Voilà, c'est ça. Je pense pas qu'ils affichent une bio-inspiration, mais ils convergent sur les mêmes solutions, finalement. Donc, de sous-optimalité et de robustesse.
Et tu avais une autre illustration ?
Oui, j'avais une autre illustration.
Par exemple, ou...
Voilà, exactement, dans l'entreprise, ouais. En fait, c'est l'exemple typique, c'est le... Donc, quand on parle de performance, il faudrait quand même que je définisse aussi. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. L'efficacité, c'est atteindre son objectif, et l'efficience, c'est avec le moins de moyens possible. Donc, c'est ça, la performance. Hein. Vraiment, d'un point de vue économique, c'est ça. Donc, dans une organisation, une entreprise, il y a des interactions qui sont très performantes. Par exemple, quand un chef dit quelque chose à son employé, ça va être ce qu'on appelle un couplage rigide. C'est-à-dire que ça va être, il va y avoir beaucoup d'informations, il faut faire la tâche. Donc, c'est efficace et efficient. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut. Et puis, il y a d'autres types d'interactions qui sont plutôt la discussion au café ou dans le couloir, quoi. Où donc là, il n'y a pas d'objectif parce qu'on parle de tout et de rien, et donc il y a encore moins d'efficience, quoi. Donc, alors, on pourrait se dire, ça, c'est des couplages souples, hein, c'est toutes ces discussions de café et tout ça. Donc, on pourrait se dire, et donc ça, c'est pas très performant. Donc, on pourrait penser que ces couplages souples de discussions de café, tout ça, faudrait plutôt les éliminer. Et donc, c'est un petit peu la philosophie du taylorisme, c'est de faire sauter tout ça et de garder que des couplages rigides pour être hyper efficace, hyper efficient. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que dans les organisations, ce qui crée de la robustesse, ce sont ces couplages souples, ces discussions du café. Et alors, bon, pour rester sur un mode, oui, ben, on comprend bien, ça fait du lien social, ça fait du team spirit, tout ça, c'est très bien, mais ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, par exemple, il y a Burtzorg aux Pays-Bas, qui est une association d'infirmiers et d'infirmières, qui en fait ont réagi au tout performant. Donc, ces centres d'infirmières, on va dire, en général, c'est des infirmières, ont longtemps été dans le dogme de la performance, donc de voir le maximum de patients par journée, de vraiment faire de la performance. Ils se sont rendus compte que ça fatiguait les infirmiers et les infirmières, qu'ils soignaient moins bien les patients, et puis au final, l'État, ça lui coûtait très cher. Donc, ils ont pensé leur système de façon un petit peu différemment dans cette organisation qui s'appelle Burtzorg, donc, en mettant l'accent sur les couplages souples. Donc, ça veut dire que les infirmiers et les infirmières passent autant de temps que possible, que nécessaire, avec les patients. Donc, ils ne comptent pas le nombre d'heures, en fait. Il n'y a pas d'objectif commercial, finalement. Donc, c'est vraiment pas efficace. Et ce qui se passe, c'est la magie de la sous-optimalité et de la robustesse, c'est que la propriété émergente de ça, de ces couplages souples, c'est que les patients deviennent plus autonomes. Et donc, ils ont moins besoin d'être visités, en fait. Les infirmiers et les infirmières, le sens de leur métier est rétabli. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de burn-out. Ils sont beaucoup plus motivés. Ils ont plein d'idées pour innover dans l'organisation. Et au niveau de l'État, financièrement, l'État y gagne, en fait. C'est-à-dire que financièrement, ça marche. Donc, c'est robuste à toutes les échelles, quoi. Donc, ça, c'est un exemple, une success story où ça marche bien. Alors, je dis pas que ça marche partout aussi facilement parce que là, c'est un métier qui a vraiment du sens, qui est assez facile. Enfin, on voit bien le sens, quoi. Soigner les gens, bon, c'est, donc je dis pas que c'est, faut forcément le décliner comme ça, un peu, de façon béate, quoi. Mais en tout cas, il y a des preuves de concept où ça marche, quoi.
Ouais, donc, C'est des exemples dont on entend parler un peu autour des thématiques de l'entreprise libérée, là, de la libération de l'entreprise. En tout cas, Burnstrug, c'est un concept un peu tiré de là. On parle aussi de prise de décision. Et toi, tu t'es intéressé au sujet de la prise de décision et de ce qui rend, déjà biologiquement, la prise de décision parfois complexe pour l'humain.
Oui, bah en fait, c'est un point clé, hein, la prise de décision, parce qu'en fait, quand on se pose la question de la crise environnementale et de où on va, dans son entreprise, mais aussi dans sa vie de citoyen, enfin bon, c'est multiples dimensions, en fait, on s'en rend pas compte, mais on prend des décisions tout le temps. Et souvent, en fait, les décisions qu'on prend, on pense être très libre de décider, de dire oui, voilà, j'ai tous mes paramètres, je fais une approche multicritère et puis je vais prendre la meilleure décision. Et en fait, on se rend compte qu'on a plein de biais cognitifs, que beaucoup de nos décisions sont des décisions en fait, qu'on prend sans vraiment le savoir. On a aussi de la fatigue décisionnelle. Donc, quand on a beaucoup à choisir, en fait, on a beaucoup à décider et du coup, on décide de moins en moins bien. Donc, ça, c'est très vrai pour les entrepreneurs, hein, notamment. On sait que maintenant, les entrepreneurs doivent prendre des décisions beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, quand on décide plus vite, notre cerveau fait des raccourcis et a tendance à encore plus valoriser les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, hein, c'est la solution du court terme, le statu quo. Enfin, bon, c'est des tas de biais cognitifs qui ne vont pas forcément dans la bonne direction. Et d'ailleurs, ça explique beaucoup des décisions contre-productives dans le développement durable, hein, d'ailleurs. C'est souvent parce que c'est des décisions qui n'ont pas été réfléchies suffisamment longtemps. Donc, c'est encore une valeur de la lenteur et des délais.
Hein, fatigue décisionnelle, en plus, ce que je lisais dans tes études, là, c'est que c'est à l'échelle même de la journée. Il y a des études qui ont été faites sur des juges aux États-Unis, c'est ça? Et on s'est rendu compte qu'il y avait une influence directe de l'heure à laquelle ils rendent la décision sur la décision en elle-même. Ça...
Oui, et même ça domine sur la décision, c'est ça qui est c'est incroyable. Hein. Et ça va très vite, en fait. Donc là, sur cette étude-là, en fait, on peut quasiment dire que la décision va être guidée par le niveau de glucose dans le sang, quoi. C'est qu'en fait, si le cerveau est bien irrigué, si on est bien reposé, on va prendre une décision rationnelle, réfléchie. Et dès qu'on commence à être un tout petit peu en déficit de sucre, hein, mais vraiment, c'est même pas perceptible, hein, bah ça y est, le cerveau commence à faire des raccourcis et à prendre la voie safe, quoi. Le raccourci. Donc pour les juges, c'est très frappant, quoi. Hein, la décision, la rationalité de la décision baisse très vite après une heure. Hein, ça commence déjà à baisser. Il y a le déjeuner et hop, on revient à 100% de décision rationnelle et puis ça redescend. Donc c'est. Ouais. C'est assez, assez vite, on s'en rend compte. Ouais.
Donc tout ça, c'est pas. Enfin, d'un côté, on a une approche qui est inspirée du monde des vivants, qui amène une batterie de réponses, en tout cas d'inspiration. Est-ce que et puis d'un autre côté, on voit que notre cerveau, on est encore dans du biologique. Il a des mécanismes qu'on connaît même pas très très bien, parce que c'est assez incroyable que dans les plus hautes fonctions, finalement, on n'ait pas déjà intégré d'avoir un bol de fruits secs sur les bureaux à grignoter toute la journée pour éviter, et puis un verre d'eau de l'autre côté pour bien hydrater notre cerveau.
Ouais, il faudrait.
Une fois que tu as fait tous ces constats-là, quelles sont les directions que tu aurais envie de donner? Qu'est-ce que tu viens transmettre aux dirigeants que tu rencontres à l'APM?
Eh ben en fait, il y a peut-être cette idée de robustesse. En gros, dire que ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le progrès a été guidé par les gains de performance. Et donc, c'est un peu notre tropisme. Et en fait, au 21e siècle, on va changer d'axe. C'est comme s'il y avait un autre axe. On va passer sur l'axe des Y et maintenant, ça va être la robustesse, quoi. Et en fait, ce qu'on peut apprendre du vivant, c'est trois grands principes. Et à mon avis, c'est trois principes qui peuvent éclairer les entrepreneurs et au-delà d'ailleurs, pour un petit peu s'embarquer dans ce siècle-là, parce qu'il va vraiment changer, hein, ça va vraiment être une autre trajectoire. Donc les trois piliers fondamentaux du vivant, le premier, c'est cette idée de coexister, quoi. En fait, ce qui est mis en avant dans le vivant, c'est la robustesse du groupe, et pas le confort individuel. Donc ça, c'est assez, c'est un petit peu compliqué à entendre, hein, dans une société qui valorise beaucoup la performance individuelle. Oui. Le vivant, au contraire, c'est la résilience du groupe. Et ça, je pense que ça parle aux entrepreneurs, en gros, hein. C'est dire, il vaut mieux finalement avoir la stabilité de son entreprise sur la longue durée plutôt que d'avoir les 5% de gains pour l'année qui vient, quoi. Donc ça, c'est assez intuitif, je pense. On le voit bien. Et puis le contrat social, finalement, c'est ça aussi. Le deuxième principe, c'est la circularité. C'est que tous les cycles du vivant sont inclus dans les cycles de la Terre. Donc, ça veut dire que nos activités, il va falloir qu'elles s'incluent dans les cycles de la Terre. Donc là, on peut penser à l'économie circulaire, à l'éco-conception, au recyclage, enfin, tous ces trucs-là. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'arrête là, c'est un tout petit cycle qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser au grand cycle. Donc, ça veut dire penser aux rétroactions très, très indirectes, comme les effets rebonds, par exemple. Mm-hmm. Donc, par exemple, les biocarburants, on pourrait penser que c'est de la super bio-inspiration parce qu'on remplace du pétrole fossile par du nouveau pétrole, des biocarburants, du bioéthanol ou des choses comme ça. En fait, les biocarburants, ça crée aussi des effets rebonds qui ne sont pas forcément très positifs, quoi. Donc, les biocarburants, par exemple, c'est si on fait vraiment du circulaire et qu'on prend toutes les implications, du coup, il faut le designer un petit peu différemment, quoi. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, ça rejoint un petit peu en fait, ça rend opérationnel les deux premiers piliers. C'est cette idée de construire de la robustesse contre la performance. Et donc, de ne pas considérer qu'il faut toujours aller vers de la performance, qu'on peut aussi aller contre la performance et qu'il y a des tas de propriétés émergentes. En fait, on peut créer de la valeur en allant contre la performance. Et la valeur qu'on crée notamment, c'est de la robustesse. Donc là, y a pas mal de leçons qu'on peut tirer en observant le vivant, mais aussi dans les systèmes sociaux. Hein. Heureusement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a énormément d'exemples dans les systèmes sociaux où on le voit apparaître, en fait, dans le monde qui vient, quoi. Donc c'est ça qui est engageant, je trouve. C'est qu'on se dit, on prend le tournant du 21e siècle, hein, et on a des exemples concrets pour dire qu'on peut y arriver, quoi.
Bon, Olivier, un grand merci pour cet échange et puis pour toutes ces pistes d'ouverture. On s'est laissé embarquer dans cette discussion passionnante. On a un nouveau mot-clé dans notre répertoire qui va remplacer, je l'espère, la performance et nous guider, c'est la robustesse. Et un robuste merci à toi, Olivier, et à très bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt, salut.
À bientôt.